On peut se tourner tout de suite dans Luc 13. Luc 13, levons-nous pour lire ensemble le passage. Donc à partir du verset 1, « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ?» parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, d'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» En ce temps-là, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas regardé Luc, on a eu 2 pasteurs invités. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il y avait avant ? Il y a quelqu'un pour venir au tableau, me faire un petit exposé. dans le chapitre 12, on avait fini sur l'idée que il fallait être prêt à tout moment pour rencontrer Dieu. Que les gens qui ne se tiennent pas prêts dans leur vie, à la fin de leur vie, qui se disent « c'est bon, j'ai encore des mois et des mois, des années devant moi, je me préparerai plus tard à rencontrer Dieu, je me réconcilierai avec lui plus tard », que ces gens-là sont fous et que notre première priorité, ça doit être de vérifier que notre rapport, notre relation avec Dieu est bon et que nous faisons ce que Dieu veut. Jésus disait de veiller. Et pour moi, j'ai l'impression que ça vient presque en suite de discussion avec ces Galiléens. C'est un peu comme si Jésus, en leur parlant, il dit « Bon, il faut que vous soyez prêts à tout moment, que le maître, quand il revient, ou quand vous allez par la mort au maître, que vous soyez prêts. » Et pour moi, c'est un peu la suite dans l'idée qu'ils disent « Bon, et pour cela, ces Galiléens qui ont été tués, et après, il leur parle de la tour de Siloé. Dans le texte, c'est pas exactement le même passage, forcément, ou les mêmes gens. Mais pour moi, il y a une suite, et pour moi, ça suit bien cette idée. On doit être prêt. Et on va voir ces 2 exemples. L'un, c'est quelque chose causé par la main de l'homme. Il y a des gens qui sont tués par Pilate ou par les militaires, on ne sait pas. Et qui étaient sans doute pas prêts à rencontrer leur créateur. Et dans le deuxième cas, c'est un accident naturel. Cette tour qui tombe, c'était pas quelque chose de prévu, c'était comme ça. Et là aussi, est-ce que ces gens-là étaient prêts, étaient veillés pour le retour du maître? Au verset 1, donc, il commence avec ces Galiléens qui ont le sang mêlé à leur sacrifice. On ne sait pas exactement quelle est l'histoire ici, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y avait un autre épisode avec Pilate que certains commentateurs pensent était peut-être lié où Pilate avait pris de l'argent du temple pour construire quelque chose et ça avait révolté les Juifs et il avait envoyé des soldats en tenue civile au milieu de la foule et il y avait eu pas mal de morts. Ça, on le tient par d'autres sources. C'est peut-être la même histoire, on ne sait pas, mais toujours est-il que il y a ces personnes, ces Galiléens qui sont morts. Leur sang est mêlé avec celui de leur sacrifice. Et c'est un peu comme s'ils venaient dire à Jésus, et ces gens-là, qu'est-ce que tu en penses? Et sa réponse, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Pour moi, ça implique qu'ils disaient, Jésus, est-ce que tu es d'accord? Ces gars-là ont bien eu ce qu'ils méritaient. Il devait y avoir des choses dans leur vie qui n'allaient pas. Ils devaient être vraiment de gros pécheurs pour être punis de la sorte. Qu'est-ce que tu en penses? Verset 3, non, vous dis-je. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et il reprend verset 4 et il rajoute un exemple et il leur dit, et les gens sur qui est tombée la tour de Siloé, vous pensez qu'eux aussi, c'était parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, parce qu'ils péchaient, parce qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu? Verset 5, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Dans Jean 9, à partir du verset 1, il y a un petit texte. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » La pensée de l'époque, la pensée des Juifs et du peuple juif de l'époque, c'était que s'il y avait des choses qui arrivaient aux gens, s'il y avait des malheurs qui arrivaient aux gens, si les gens étaient malades, étaient infirmes, étaient possédés, étaient comme cette femme qu'on va voir après, c'était qu'ils le méritaient en quelque sorte. C'était que Dieu leur avait donné ce qu'ils méritaient. Et c'est une pensée qui perdure. C'est une pensée qui persiste. C'est une pensée très humaine. C'est une pensée qui est facile pour nous à accepter et qui nous conforte. Ça flatte en quelque sorte l'ego des gens qui n'ont pas péri. Les gens qui viennent demander à Jésus, en quelque sorte, ils pointent du doigt. Ouais, ceux-là étaient vraiment mauvais. Nous, ça va, on est bon. Eux, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Nous, on est bien. Tu es d'accord? C'est une manière de flatter l'ego. Jésus ne dit pas ils sont innocents. Il ne dit pas ces gens qui sont morts étaient innocents. Il dit simplement ils n'étaient pas pires que vous. Romains 3, 23 dit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vis-à-vis de Dieu, on est tous pécheurs. On est tous, en tant qu'hommes, également coupables devant Dieu. Et c'est un concept pour nous qui est difficile à accepter, et c'est un concept qu'il est bon de digérer, sur lequel on doit méditer, sur lequel on doit penser. Nous, on aime bien classer les péchés. Ça c'est le truc, le summum. Ça, c'est vraiment horrible, et ça, c'est un peu moins bien. Et ça va, c'est des trucs, bon, ça... Hein, c'est rien. On rigole, mais on sait exactement ce qu'on pense. Si on tue quelqu'un, si on vole 10 millions d'euros, si on vole un bonbon, si on ment par omission, il y a des différences dans les conséquences des péchés, mais devant Dieu, tous les péchés pose le même problème. Tous les péchés amènent exactement le même jugement. C'est intéressant, dans les passages précédents, on a abordé la question du fait qu'il n'y a qu'un péché qui mène à la mort. Ça vous a jamais interrogé l'idée qu'il n'y en ait qu'un, alors qu'il y a plein de péchés? Souvent, sur cette idée-là, on se dit, mais ok, alors c'est lequel? Il faut qu'on l'évite. Et puis finalement, on se dit pas, mais pourquoi est-ce que tous les péchés, pourquoi il n'y a qu'un péché qui mène à la mort? Jésus, là, il vient et il leur casse les petits compartiments bien rangés. Nous, on aime bien pouvoir on a la case, dans notre tête, on a la case péché horrible. Hein, meurtre, j'en sais rien, enfin vous connaissez, j'ai pas besoin de les citer, mais c'est des péchés horribles. Les gens qui commettent ces péchés-là, vous avez même pas envie d'être dans la même pièce qu'eux. Vous avez envie qu'ils soient habillés en jaune avec un panneau marqué meurtrier, qu'on puisse les éviter dans la rue. Ensuite, on a notre petite case des péchés qui sont ok pour moi. Je peux mentir, je peux faire mon petit truc, je peux avoir le cœur dur, je peux ne pas faire confiance à Jésus, je peux ne pas obéir à sa parole, je peux, j'en sais rien moi, vous examinez vous-même. On a tous des petits péchés où on les a mis dans une boîte, ça va, c'est bon, c'est moins grave. Si on vous demande est-ce que vous êtes mieux que Hitler, Staline ou d'autres, quelle est votre réponse? Hein? Est-ce que dans votre tête, si je vous demande cette question, il vous viendrait à l'esprit de vous dire au même niveau? Non, c'est scandaleux pour nous. Et Jésus, il vient et il casse ça. Jésus, il détruit ça. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est accro à la drogue, qui est alcoolique, ou autre, est pire que quelqu'un qui est peut-être accro à la nourriture ou à l'internet ou à la télé ou à... J'en sais rien. Est-ce qu'un meurtrier est pire que quelqu'un qui n'aime pas son époux, son épouse ou ses enfants comme Dieu le veut? Est-ce que quelqu'un qui commet un péché est pire que quelqu'un qui, derrière, va médire sur cette personne à cause du péché qu'elle a commise? Non, ils sont sur le même pied d'égalité. Dieu considère les deux comme un péché qui, devant lui, est une faute. À vous d'examiner, de vous poser cette question. Quels sont les péchés que je considère comme ok? Quels sont les péchés dans vos vies que vous excusez? Quels sont les péchés que moi, je me permets de commettre et puis je dis, celui-là, ça va. J'ai essayé de trouver une image pour un peu donner un peu de relief à cette idée. J'en ai trouvé une et on va la tenter. C'est un peu comme si on est tous ensemble, toute l'humanité, sur un navire qui coule, et il y en a un qui est assis, qui pointe du doigt l'autre et qui dit « Ah, t'as de la boue sur la joue, t'es pire que moi. » Ou « T'es mal habillé, moi je suis classe, je suis mieux que toi. T'as volé du pain dans les cales, moi j'ai rien fait, je suis mieux que toi. » Et à la fin de la journée, quoi? Bah, ils coulent tous les deux. Et on est ridicule. On est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous pensez que vous êtes bon, relisez-vous un petit coup de Matthieu 5 à 7, les béatitudes, où Jésus prend les 10 commandements et il relève le niveau. En lisant ces choses, en lisant les 10 commandements, en lisant ces passages-là, il n'y a pas de... Si on est honnête, on est tous pécheurs. On est tous mauvais et c'est un constat auquel nous devons arriver et que nous devons accepter. Et quand nous arrivons à ça, là, nous pouvons regarder à Jésus. Quelle grâce, quel amour, quelle gloire, il nous aime alors qu'on est pécheurs. Alors qu'on est horrible. Quand on est contre lui, c'est là qu'il meurt pour nous. C'est incroyable, c'est beau, et c'est ça qui doit nous permettre d'avoir de la joie et de chanter. Si nous, si on arrive à ce constat de se dire qu'on est tellement mauvais, qu'on est tellement injuste et qu'on n'arrive pas à faire la moindre demi-chose, petite chose que Dieu nous demande, combien plus d'assurance nous devrions avoir de nous dire « Dieu nous a aimés d'un si grand amour, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Si moi, quand je fais la pire des choses, Dieu m'aime quand même, s'il est mort pour moi et que je l'accepte, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien. Et c'est tellement beau, ça doit être notre raison de chanter le dimanche matin. C'est vraiment quelque chose qui est lié à notre vision du monde aussi, ici. Cette idée de péché, cette idée avec les Galiléens, on aimerait bien que le monde soit simple et que dans le monde, de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et de mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. C'est ce qu'on a envie de penser, c'est ce qu'on a envie qu'il arrive. On a envie que ce soit ça. Et c'est là, cette pensée, ça, c'est proche de ce qu'on appelle un petit peu la doctrine de la prospérité. Si vous croyez vraiment en Dieu, si vous avez vraiment la foi, alors vous devez être riche et en bonne santé, et tout doit bien aller. Ces juifs là qui posent la question, ils disent mais eux, il leur arrivait des malheurs, c'est qu'ils étaient horribles, hein. La Bible ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez lu les psaumes ? Est-ce que vous avez lu les prophètes de l'Ancien Testament ? Combien de fois ces hommes-là que Dieu élève comme étant des exemples pour nous, combien de fois ces gens-là, dans leur texte, disent « Dieu, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il arrive du mal aux hommes bien ? Et pourquoi est-ce qu'il arrive du bien aux hommes mauvais ? Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent ? Pourquoi est-ce qu'ils perdurent ? Pourquoi Dieu ? Et le sous-entendu, c'est que moi je suis bon, j'aimerais de bonnes choses, Dieu. Pourquoi j'ai pas ce que je mérite ? Mais c'est un mauvais constat, on mérite tous la mort, on ne mérite rien devant Dieu. Quand on accepte Jésus, on ne mérite rien, on n'a rien fait. Et les choses qu'on fait, c'est simplement l'expression de la reconnaissance pour Jésus qui a déjà tout fait. On est inexcusable, dit la Bible. Et cette vision du monde, c'est difficile. Il y a des catastrophes qui arrivent dans le monde. Il y a des choses qui arrivent et on vient nous demander ou on dit bon ben où est Dieu ? S'il y a Dieu, pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent ? Pourquoi est-ce que ces malheurs arrivent ? C'est pas logique. Et le monde, malheureusement pour nous, n'est pas aussi simple, pas blanc, noir, bon, mauvais. C'est difficile pour nous d'accepter simplement la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait des choses, il laisse des choses arriver, et on n'a pas toujours la réponse de pourquoi. Et c'est pas forcément un mérite ou une punition ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la Bible... Il y a quelques cas où les mauvais sont punis et sont jugés. Il y a quelques cas où les bons reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Mais c'est rare. Et le plus souvent, les exemples qui sont donnés, c'est au niveau d'une nation. C'est souvent des questions de nations qui se dirigent dans un sens ou dans l'autre et les nations qui sont jugées par Dieu. Mais c'est pas forcément l'individu. L'individu se retrouve souvent dans des situations qui sont pas forcément le fruit de ses actions. Des nations peuvent prospérer parce qu'ils ont un passé chrétien proche et il peut avoir de mauvais individus qui sont dans cette nation et qui profitent à plein de cette situation-là. Et inversement, il peut avoir des nations qui sont jugées et des bons qui sont au milieu de la situation et qui subissent. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Et si on veut lui faire confiance, on peut se reposer sur ses promesses. Et accessoirement, parmi certaines de ses promesses, il nous promet d'être persécutés. Il nous promet aussi de nous garder et de nous donner des récompenses au ciel. Et il nous dit d'avoir la bonne vision et de mettre d'avoir le cœur centré sur le trésor qui compte, et c'est la vie éternelle, c'est investir dans le royaume de Dieu, c'est regarder au-delà de cette vie et d'ici et maintenant. Dieu peut nous bénir, Dieu peut laisser des choses arriver qui nous font prospérer dans la richesse matérielle, dans les circonstances de la vie. Il peut faire le contraire, et ça n'est pas la signification que Dieu nous juge pour une chose ou pour une autre. Ne soyons pas de ceux qui pointent du doigt quelqu'un et qui dit « tu as eu ce que tu méritais ». Ne soyons pas ces gens-là. Ce n'est pas le cœur de Jésus. On va regarder après. Jésus, quand il voit la femme tout le ministère de Jésus, le cœur de Jésus, c'est de guérir, c'est de libérer, c'est de restaurer. Et il n'est pas là à pointer du doigt et à dire « tu as ce que tu mérites, va-t'en ». Ça, c'est notre manque d'amour et de grâce. Et ça, c'est moche quand c'est nous qui, en tant que chrétiens, le faisons. C'est vraiment moche. Pour boucler cette question, cette chose, on va un petit peu résumer. Les Juifs viennent et disent « mais pourquoi est-ce arrivé ?» Et Jésus, c'est un petit peu comme s'il leur dit « qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?» Et pour moi, sa réponse, non, c'est pas ils ne sont pas pires que vous. Et vous, si vous ne vous repentez pas, il va vous arriver quelque chose d'aussi mauvais. Sa réponse est « il faut être prêt pour la mort ». Il faut vous repentir, il faut changer. Il faut se tourner, il faut obéir à Dieu, il faut mettre sa foi en Jésus et changer. Il faut veiller. Ça peut arriver à tout moment. C'était avant-hier, il y a une coulée de boue en haut de Nice. Je voyais un entretien avec les pompiers qui disaient il y a 400 mètres cubes de boue. Les chiens peuvent pas trop sentir, donc il va falloir assez de temps pour qu'on puisse savoir s'il y avait des piétons ou pas. Je me suis dit, mais waouh, je me serais baladé par là, j'aurais fait un footing, je serais sorti de ma voiture et je me prends 400 mètres cubes de boue dans la tête et c'est fini. On l'a déjà dit, on le répète. On doit veiller, la mort peut venir à un instant où on ne l'attend pas. Verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, d'ici là je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Donc un homme a un figuier dans sa vigne qui ne produit pas de fruits et il veut le couper. Ça semble bien. Une plante qui ne fait pas ce qu'on lui demande, ça c'est... C'est normal. Ma femme, il y a certaines plantes, quand il n'y a plus de fleurs, elle est... Et là, le vigneron vient et dit, fais grâce, je vais le bichonner un peu et on va voir si on n'arrive pas à en tirer quelque chose quand même. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans cette parabole. Il y a tout d'abord et peut-être par rapport aux circonstances, l'idée, presque une annonce prophétique de Jésus sur le peuple d'Israël et sur l'histoire qui allait arriver rapidement, presque moins d'une génération, une quarantaine d'années plus tard, avec la destruction d'Israël, la destruction de Jérusalem par les Romains, et l'idée que le peuple juif était l'olivier, le plan de Dieu en quelque sorte, et que elle a été coupée. Jésus le dit, on en a presque l'impression de manière prophétique ici, c'est une annonce. Paul parle de nous comme ayant été greffés à leur place. On peut se tourner dans Romains 11 pour voir ces choses. Je vais le lire tout entier, le chapitre. On a le temps. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres qui ont été endurcis, selon ce qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient continuellement leur dos courbé. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts ? Or si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et, contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne vous veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sage. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul dit, nous avons été greffés. Et Paul dit, Dieu n'a pas hésité à couper des branches, à retrancher l'olivier naturel. Il n'hésitera pas pour vous qui avez été greffés à la place, qui n'êtes même pas à votre place de droit en quelque sorte. Et ici, par rapport à cette parabole, on peut regarder et Jésus nous dit, est-ce qu'il y a du fruit dans notre vie? Jésus veut du fruit dans nos vies. Jésus est en droit d'attendre du fruit de nos vies. Ça n'est pas exagéré. Le fruit montre la vérité de ce qui y a dans nos cœurs, s'il y a vraiment eu un changement, si nous croyons vraiment en Jésus. Si nous venons vraiment à Jésus, alors nous allons produire du fruit. C'est Jacques, dans Jacques 2, qui dit « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver ?» C'est le verset 14. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Est-ce qu'il y a du fruit dans ma vie? Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que ces choses-là sont dans ma vie? Heureusement, Dieu est patient. Il vient nous voir, il voit qu'il n'y a pas de fruits, malheureusement, dans bien des cas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il serait en droit de nous jeter dehors. Et il dit, je vais bichonner un peu. Quelle grâce! Parfois, ça veut dire qu'il doit nous enterrer dans le fumier, les gars. C'est pas forcément très agréable. Il nous fait violence, il caille, il coupe, il taille, il élague. Il nous met des circonstances dans nos vies qui nous poussent, qui nous font grandir, qui nous font changer. Il y a des passages où Paul parle de l'idée de persévérance dans la persécution, dans les difficultés, et l'idée que les difficultés, les épreuves sont des choses que Dieu utilise pour nous faire grandir, pour faire sortir le fruit. Et on aime pas cette idée, mais malheureusement, il faut que Dieu, en quelque sorte, nous fasse un petit peu cette violence pour que nous produisions du fruit. Mais c'est une grâce. Et cette parabole est intéressante parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne sait pas ce qu'il arrive au figuier. Il laisse ouvert, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on sait pour le peuple, pour la nation d'Israël qui a eu un jugement en l'an 70, mais pour nous, est-ce que ma vie va donner du fruit? Il laisse ouvert, il y a un choix. Il y a un commentateur, Barclay, qui résume ça, cette petite parabole avec quatre petits points que je trouvais intéressants. Il dit l'inutilité appelle le désastre. Si on est inutile pour Dieu, si on porte pas de fruits pour Dieu, attention. Le figuier ici, en quelque sorte, il ne fait que prendre. Il donne rien en retour. Est-ce que nous, on ne fait que prendre, ou est-ce qu'on donne quelque chose en retour? Troisième point, Dieu donne de secondes chances. Il fait grâce, il est patient. Dans 2 Pierre 3, 9, Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Mais, quatrième point, il y a une dernière chance. Il y a un moment où c'est la dernière chance. Donc posons-nous la question, est-ce que ma vie donne du fruit pour Dieu ? Regardons la suite, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ? » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. 18 ans, c'est long. C'est vraiment une très belle image ici de Jésus qui appelle cette femme. Ça m'a fait penser le chant qu'on a chanté tout à l'heure, cet amour qui nous appelle par notre nom. Cette idée que Jésus la voit arriver et lui dit « Viens ». Il lui impose les mains et lui dit « Tu es guéri ». Je me dis que ce sera incroyable de pouvoir discuter avec ces gens au ciel, de se dire, d'entendre leur témoignage. Jésus aime libérer, il veut faire le bien, il veut nous faire le bien. Il se soucie de chaque personne et... Parmi nous et parmi les gens autour de nous, il y a tellement de gens qui sont courbés, qui sont brisés par des choses dans leur vie. Ça peut être des péchés, ça peut être des choses du dehors, le diable, ça peut être la souffrance, ça peut être le deuil, la tristesse. Et Jésus veut libérer. Petite remarque, parfois un problème physique peut venir d'un problème spirituel, comme ici, mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas toujours penser que c'est la même chose. Et inversement, on doit être conscient quand même que des problèmes spirituels peuvent aussi poser des problèmes physiques. C'est bon de l'avoir en tête suivant les situations. Luc 4, 18 et 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et le chapitre 19, verset 10, qu'on peut identifié comme étant le thème de Luc, le verset un petit peu qui résume le livre, c'est « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus aime Dieu parfaitement et il aime les autres comme lui-même. Et de cet amour, de cette relation, c'est tellement naturel pour Jésus de vouloir guérir cette femme. Il la voit et il dit « J'ai envie qu'elle... Enfin, je veux la guérir. » Et la réaction du chef de la synagogue est... il lui dit « Mais pas le dimanche, les gars !» C'est ridicule. On en rigole. Imaginez-vous que quelqu'un rentre en chaise roulante ici, quelqu'un d'entre vous prie pour elle, la personne est guérie miraculeusement, se lève et se met à louer Dieu... Et que je me permette de dire, hé, tais-toi, on est dimanche là, pas aujourd'hui. Vous seriez d'accord pour dire que je serais ridicule. Ce, chef, il regarde même pas Jésus, il lui répond même pas à Jésus, il parle aux gens, quoi. Revenez un autre jour pour être guéri. Est-ce que vous pensez que cette femme, elle avait été guérie un autre jour? Elle est courbée, elle devait avoir du mal à marcher, elle vient quand même à la synagogue. On peut penser que c'était quelqu'un qui devait être... Elle a dû être présente dans la synagogue un autre jour. Est-ce que le chef de la synagogue l'a guérie ce jour-là? Comme si le chef, il disait, reviens lundi, je te guérirai lundi. Non. Et Jésus raisonne avec avec la foule, avec ce chef, il lui dit, mais tu es hypocrite, t'es un animal qui a soif, tu vas le détacher, et un homme qui est brisé, qui est meurtri, tu vas rien faire. Et une femme, une fille d'Abraham, c'est bien plus qu'un animal. Il raisonne du moindre vers le plus, de ce qui est le plus important. Et malheureusement, parfois, nous sommes tout aussi ridicules. C'est rarement aussi flagrant, rarement aussi évident. Mais notre égoïsme, nos règles, nos habitudes, nos petites traditions, nos a priori, toutes les choses que je permets, toutes les choses, on va dire, système, que je mets, à qui je donne une importance plus grande qu'aux gens autour de moi. Ici, c'est un petit peu, est-ce que le système est plus important que l'individu, ou est-ce que l'individu est plus important que le système? Pour moi, ça résume bien l'idée. Pour Dieu, le système, c'est pas l'important. Il dit le sabbat, c'est pour le bien de l'homme. Mais si le sabbat pose un problème et rend l'homme plus esclave et plus meurtri, alors on l'enlève. Il dit l'individu, c'est l'important, c'est pas le système. C'est difficile, c'est des petites choses, je pense, pour nous à identifier, mais est-ce que certaines de nos règles ou nos traditions, est-ce qu'il y a des moments où on dit elles sont plus importantes que les personnes qui ont besoin de moi? Peut-être un des exemples les plus évidents, est-ce que quelqu'un a besoin de vous pour une raison ou pour une autre, que vous sentez que cette personne a vraiment besoin de vous et vous dites non, je peux pas, j'ai église ou j'ai un truc... Le dimanche, je vais à l'église. Je n'aide pas les gens à déménager ou à faire autre chose. Le dimanche, c'est église. Le jour de Noël, non, je suis en famille. C'est comme ça. Moi, en préparant cette étude, par exemple, hier, en étudiant, est-ce que si quelqu'un vient me voir, je dis non, je peux pas t'aider. Demain, il y a église, faut que je sois prêt. Il y a tellement de petits moments où on met le système, où on met nos habitudes, où on met notre projet. Non, j'ai ça à faire aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ci. Peut-être je peux t'aider plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout le monde. Évidemment, on doit avoir du discernement. On doit être sensible à l'esprit. Mais Jésus, quand on regarde sa vie, les gens ne sont jamais des inconvénients, ne sont jamais des gênes par rapport à son emploi du temps. Il est jamais importuné. Il est toujours... C'est vraiment fou quand on regarde la vie de Jésus. Il a toujours de l'amour, il s'arrête, il dit non, c'est bon, je me concentre sur la personne qui est là. Heureusement pour nous que quand on vient à lui, il est toujours là pour nous. Il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Et ça doit être notre cœur de faire grâce aux gens qui viennent à nous, d'avoir ce cœur où on regarde les gens comme étant plus importants que les systèmes ou nos habitudes ou les petites traditions. Est-ce qu'on est, j'en sais rien, moi, enfin, est-ce qu'on est plus concerné par, par le déroulement exact de l'Église le dimanche matin, ou est-ce que on est plus intéressé par l'idée, est-ce que les gens sont vraiment là pour louer Dieu et reçoivent vraiment quelque chose de Dieu? Est-ce que souvent on met tellement de qu'il fasse 7 chants, 2 minutes de prière, 40 minutes d'enseignement, c'est bon. Zut, je suis à 48, on est mal. On est tellement on est hypocrite. Que Dieu nous remplisse d'amour, que Dieu nous remplisse de grâce les uns pour les autres. C'est le royaume de Dieu, ça doit être quelque chose qui marque les gens, ça doit être quelque chose qui est visible, qui est remarquable. Je vous encourage à réfléchir aux gens dans notre Église qui ont besoin de nous. Pensez-y, demandez-vous là tout de suite, est-ce que vous pouvez vous dire, je sais qu'il y a une personne que je pourrais bénir, que ce soit par une parole ce matin, une action cette semaine. Pensez-y là maintenant et décidez en votre cœur de vous dire, je vais faire quelque chose pour cette personne, je vais aller lui dire, je t'encourage, je veux t'aider, je veux faire quelque chose. Soyons des gens qui, là on entend ça, on dit oui, le chef de la synagogue, la femme courbée, c'est bien. Pensez-y là, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un prénom? Je veux qu'on parte d'ici avec un prénom en tête de quelqu'un qu'on veut bénir cette semaine. Pensez-y là. Et si vous ne connaissez pas encore des gens à l'église, soit faites connaissance, soit pensez à quelqu'un dans votre église ou dans votre lieu de culte. Jésus a dit que le témoignage serait notre amour les uns pour les autres. Témoignons de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce, merci parce que tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Tu es venu nous chercher, nous étions perdus. Nous étions séparés de toi. Et tu es venu mourir pour nous. Quel amour! Quelle grâce incomparable. Seigneur, donne-nous de l'amour les uns pour les autres. Aide-nous à ne pas être de ceux qui jugeons les autres, à dire ils ont ce qu'ils méritent. Aide-nous à suivre ton exemple, de dire personne n'a, nous n'avons tous pas ce que nous méritons, car nous méritons tous la mort. Nous avons tous reçu de toi, Seigneur, et nous voulons le donner. Nous voulons qu'il y ait du fruit dans nos vies. Nous voulons que nos vies soient des réponses à cet amour que tu as manifesté pour nous. Jésus, parle à nos cœurs. Sois élevé ce matin. Sois glorifié parmi nous. Merci pour ce temps ensemble et merci pour ta parole, Seigneur. Pour cette parole qui est vivante, qui est efficace, qui est tranchante, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, qui nous révèle ta volonté pour nos vies, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.